Bonjour, merci d'être présent, d'être venu si nombreux, selon la formule habituelle, mais ça correspond, je pense, aussi à la réalité. Donc nous allons ouvrir ce colloque, qui est évidemment, comme toujours, très chargé. Donc, il y a un peu plus de deux ans, on tenait un colloque, effectivement, sur le thème perturbateur endocrinien et changement de paradigme. Et je crois qu'on peut mesurer aujourd'hui le chemin qui a été parcouru depuis ce colloque. On a tous en mémoire, évidemment, l'interdiction des biberons au bisphénol, ce qui a été suivi par le vote des députés et des sénateurs sur l'interdiction du bisphénol dans les contenants alimentaires. Un vote, d'ailleurs, je le souligne, qui a été obtenu à l'unanimité. Et puis récemment, d'ailleurs, dans la suite de cette prise de conscience, le vote du rapport Westland au niveau du Parlement européen, qui n'a pas été voté à l'unanimité du Parlement, mais qui a été voté par l'unanimité de la délégation française, qui est plutôt rare, même voire rarissime à ce niveau-là. Et je pense que le colloque d'il y a deux ans a joué un rôle important dans la prise de conscience des responsables politiques, et plus largement, d'ailleurs, et c'est les deux étant très liés, dans la prise de conscience de l'opinion sur l'enjeu des perturbateurs endocriniens. Et donc là, j'en profite au passage pour saluer l'action qui a été menée par Gérard Bapt au titre du groupe Santé Environnement de l'Assemblée nationale. Donc il cède d'ailleurs son poste à Jean-Louis Romégas qui sera là cet après-midi. Et cette journée se tient aussi dans cette perspective de continuer ce travail d'action et d'interaction avec les responsables politiques pour porter cette question des perturbateurs endocriniens et plus largement des questions de santé environnementale. Donc ce colloque, je le disais, a été important et je crois qu'aujourd'hui, celui qui se tient est tout aussi important dans la mesure où on a là des échéances qui se précisent et l'objectif, c'est effectivement de faire en sorte que ces échéances prennent en considération l'enjeu de la journée, c'est-à-dire l'enjeu des maladies métaboliques, l'enjeu des causes environnementales de ces maladies métaboliques. Et deux échéances importantes, la stratégie nationale perturbateur endocrinien, donc qui se prépare actuellement, qui doit être présentée au Conseil des ministres à la mi-juin. C'est la France devrait être le premier pays au monde à se doter d'une stratégie nationale perturbateur endocrinien. Donc on a l'espoir effectivement que cette SNPE, comme on le dit, sera exemplaire, sera ambitieuse. Et notamment qu'elle reprendra l'objectif qu'on emprunte d'ailleurs à John Kerry, qui était en tant que sénateur américain à l'époque, avant de devenir secrétaire d'État. Donc l'ancien candidat démocrate à la présidence des États-Unis avait déposé une loi qui n'a pas été suivie d'effet, mais qui a été déposée et qui fixe comme objectif que l'organisme d'aucun parent ne soit contaminé par un perturbateur endocrinien. Alors, objectif extrêmement ambitieux, mais qui a le mérite effectivement de montrer l'ampleur de la question et l'importance de positionner l'action par rapport à cet objectif. Et je crois que l'enjeu d'aujourd'hui, c'est aussi d'alimenter, de montrer pourquoi effectivement cet objectif est nécessaire si on veut aujourd'hui arrêter l'épidémie de maladies métaboliques et plus largement d'ailleurs l'épidémie de maladies chroniques. Deuxième échéance importante, la stratégie nationale de santé. Et donc, je me retourne vers Étienne Cagnard, parce qu'effectivement, Étienne, avec la mutualité, sera un acteur déterminant dans la définition de cette stratégie nationale de santé. Alors, moi, j'ai relu, en préparant cette intervention, les déclarations du Premier ministre, et il nous dit « la politique sanitaire ne se résume pas à l'offre de soins ». Ce qui est évidemment, tout le monde sera d'accord là-dessus, tout le monde le dit, mais dans les faits, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et il nous dit, l'état de santé d'une population dépend aussi de la prévention des maladies et de l'éducation à la santé. Et il termine en disant, il est temps, il est urgent d'agir. Je crois que là, tout le monde acquiescera sur ce constat et sur la nécessité d'agir et l'urgence d'agir. Et ce n'est pas un autre objectif, effectivement, d'organiser ce colloque. Il y a urgence à agir parce qu'effectivement, nous savons, les données scientifiques aujourd'hui sont suffisamment stabilisées pour savoir que la contamination par les perturbateurs endocriniens principalement, c'est l'enjeu sur les générations futures. Et ça, c'est vraiment le changement de paradigme qu'on a contribué à comprendre, effectivement, il y a 2 ans. C'est-à-dire cet enjeu autour du fait que ça n'est plus la dose qui fait le poison, c'est la période qui fait le poison. L'exposition pendant la grossesse, pendant la période périnatale, a des impacts sur la santé de l'enfant, du futur adulte, et voire sur plusieurs générations. Alors Gilles Albon va développer ça tout à l'heure sur le changement de paradigme. Je pense que Robert Barocchi, qui nous fait aussi l'amitié d'être présent, et Rémi Slama vont aussi développer ça. Claudine Julien aussi développera le concept de la DOAD, hein, l'origine développementale des maladies de l'adulte. C'est des questions qui sont aujourd'hui suffisamment stabilisées au plan scientifique pour qu'elles soient transférées dans le débat public et qu'elles soient prises en compte par les responsables politiques. Je pense que l'enjeu en santé publique est toujours celui-là, c'est le temps de décalage entre la production de connaissances et la mise en œuvre. Et l'enjeu aujourd'hui de cette réunion, c'est pour ça qu'effectivement cet après-midi, nous aurons aussi un éclairage sur les pratiques. Et c'est très important, effectivement, que la mutualité, je m'en réjouis, notre partenaire dans cette action, parce qu'on n'avancera pas uniquement sur un aspect institutionnel. Il faut le faire, bien évidemment. Il faut faire des lois, il faut effectivement des plans. J'en profite d'ailleurs pour saluer la présence de Serge Herberg et d'Arnaud Balvan, parce que l'enjeu des plans, aujourd'hui, il est évident. C'est-à-dire, on a des plans qui sont construits, effectivement, sans interface. Et l'interface avec le plan national santé-environnement est évident. Et ça, dans la préparation des futurs plans, cette question-là devrait être prise en charge. Et les maladies métaboliques résument un peu cet enjeu-là. Elles ne sont pas identifiées aujourd'hui vraiment comme des maladies environnementales. Et quand on traite effectivement des questions de nutrition ou d'obésité, on ne prend pas en considération, et ça n'est pas évidemment un reproche, c'est plus la vision classique dont il faut sortir aujourd'hui pour comprendre, appréhender finalement cette question sous l'ensemble des causes environnementales. Et c'est cet enjeu, cette complexité, cette difficulté aussi à agir qui fait qu'on a intérêt aujourd'hui à avoir cette vision claire pour pouvoir agir, obtenir des résultats. Parce que je regardais l'évolution effectivement des chiffres du point de vue des affections de longue durée. On a toujours cette idée que les maladies cardiovasculaires, finalement, les choses s'améliorent, puisque la mortalité diminue, puisque les cancers sont devenus la première cause de mortalité. Donc, j'ai entendu, les maladies cardiovasculaires, ça va mieux puisqu'elles sont passées en deuxième position. Mais quand on regarde la morbidité, quand on regarde l'évolution des affections de longue durée, sur 20 ans, la progression, c'est un doublement de l'incidence. Alors que le changement démographique représente 21% de progression. Donc finalement, les maladies cardiovasculaires ont progressé 4 fois plus vite que le changement démographique. 4 fois plus vite. Alors il y a une façon de régler le problème qui est la méthode qui avait été choisie par Roselyne Bachelot, qui est supprimer effectivement les affections de longue durée, l'hypertension des affections de longue durée. Ça permet effectivement de résoudre le problème. On casse le thermomètre pour ne pas voir la température. Mais ce n'est pas la bonne façon de s'attaquer au problème. Il faut effectivement comprendre l'ensemble des causes de ces pathologies. Et c'est l'enjeu aujourd'hui de ce colloque, de montrer effectivement que la vision, une vision classique, n'est plus pertinente, qu'il faut avoir une vision qui tienne compte des données scientifiques d'aujourd'hui, et il faut agir. Et il faut effectivement que les acteurs de terrain se saisissent de cette réalité pour agir. Je crois que c'est toute l'ambition de ce colloque. Je pense que l'expérience nous a montré qu'avec cette vision des choses, on pouvait faire bouger les choses. Je crois qu'on a avancé relativement vite. Eh bien, nous avons une nouvelle étape devant nous, et c'est ce que je vous engage effectivement à emprunter avec nous cette voie. Et je passe la parole à Étienne en remerciant effectivement la mutualité du soutien qu'elle nous a apporté dans cette action, puisque sans ce soutien, y compris financier, ce qui n'est pas négligeable, nous n'aurions pas pu sortir le rapport qui nous a permis de faire le point sur la littérature et donc qui nous permet aujourd'hui de continuer cette action. Étienne, je te passe la parole.
Merci André de cette occasion à la fois d'ouvrir donc cette réunion importante pour les raisons qu'André Cicolella vient de rappeler. Importante pour la mutualité française aussi parce que si l'implication de la mutualité française sur le thème santé et environnement est aujourd'hui réelle, elle est assez peu connue. Il est vrai que cet engagement est finalement assez récent. C'est il y a 4 ans, au congrès de Bordeaux, en juin 2009, que la mutualité française faisait pour la première fois finalement le constat explicite d'un lien entre santé et environnement, même si ses premières actions dans ce domaine remontent beaucoup plus loin. Il y a maintenant de longues années des travaux sur des sujets comme l'amiante, il y a assez longtemps des travaux. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de se connaître et de travailler ensemble avec André sur les éthers de glycol. Donc on voit bien que ce travail est ancien, mais en même temps, il n'avait pas été intégré de façon explicite dans la stratégie de la mutualité française. C'est pour ça que je situe le point de départ de notre engagement sur ce thème en 2009. Nous affirmions à l'époque, et je pense que c'est important, que la mutualité française devait s'engager, c'était la résolution de notre congrès, à favoriser une approche collective dans le domaine de la santé environnementale en prenant en compte l'ensemble des milieux de vie et de travail, donc une ambition très large qui correspond à ce qu'André vient de rappeler et appelait évidemment à la mise en place de logiques de prévention lorsque le risque est avéré bien sûr, ou de précaution en situation d'incertitude plutôt. Et c'était important de rappeler ceci que de se contenter d'être dans une situation de réparation comme l'était traditionnellement la mutualité. Et évidemment, cet engagement, il s'appuie sur plusieurs raisons. La réalité des coûts, André vient de le rappeler en conclusion de son introduction, pour la collectivité, pour l'assurance maladie, pour l'ensemble des financeurs. Alors, c'est particulièrement vrai pour certaines pathologies dont les liens avec l'environnement sont évidents, comme l'asthme par exemple. C'est vrai pour beaucoup de pathologies chroniques, tu l'as rappelé, pour lesquelles effectivement le lien paraît moins direct, mais est aussi important. Je rappelle que l'AFSET, notamment, dans le cadre d'un travail qui avait été effectué à la demande du ministère de la Santé, avait tenté d'évaluer les coûts pour l'asthme. Ses conclusions étaient très claires, je les cite, en extrapolant les dépenses estimées pour l'année 99 à l'année 2006, et en estimant comprises entre 10 et 35%, donc une estimation relativement prudente, la part de l'asthme attribuable à l'environnement, le coût du traitement de l'asthme imputable à la pollution extérieure non biologique a été évalué à un montant compris entre 0,2 et 0,8 milliards d'euros pour l'année 2006. Bien sûr, ces estimations doivent être prises avec prudence, mais ce simple exemple montre évidemment l'importance des enjeux financiers, des ordres de grandeur qui sont en cause. Mais cet engagement de la mutualité, il s'appuyait aussi et surtout sur des considérations pas de nature financière, mais plutôt un refus des inégalités qui conduisent évidemment, et on ne le répète pas suffisamment me semble-t-il, à un cumul de risques pour certaines catégories de la population. Les inégalités géographiques, les inégalités socioculturelles, les inégalités économiques, se prolongeant évidemment par des inégalités d'exposition aux facteurs pathogènes, et c'est un point extrêmement important. C'est particulièrement vrai, je n'insiste pas, André vient d'en parler, pour les pathologies chroniques, dans lesquelles la prévention et la prise en charge, plutôt dans la prévention et la prise en charge desquelles, pardon, la mutualité s'est beaucoup investie. Elle s'est investie à la fois dans une logique d'émancipation, de responsabilité des individus, pour aider aussi chacun à développer ses aptitudes, pour adopter un comportement adapté et faire des choix éclairés. Et c'est ainsi que, finalement, petit à petit, la mutualité est devenue un acteur légitime dans le domaine de la santé environnementale et est représentée d'ailleurs maintenant depuis plusieurs années au sein du plan national santé-environnement. Alors, comment s'investit-on ? De façon un petit peu rapide, synthétique, dans ces sujets. L'investissement du mouvement mutualiste, il s'appuie bien sûr sur ses équipes de prévention et de promotion de la santé, mais aussi sur tous nos échelons décentralisés, nos unions régionales et nos mutuelles de terrain. Beaucoup sont d'ailleurs présentes aujourd'hui. Et la montée en charge, finalement, s'est effectuée en deux temps. Une première période, dans les rapports et dans le travail qu'on a effectué ensemble, deux premières années, 2009-2010, qui s'est plutôt accompagné d'un développement de l'expertise du réseau prévention et promotion de la santé et la mise en œuvre d'actions pilotes, à la fois des conférences grand public, et André a insisté sur l'importance de rapprocher les prises de conscience du public, des décideurs et la connaissance scientifique. Donc, les conférences qu'on a organisées contribuaient à ce rapprochement des connaissances, à ces diffusions, et puis des actions un peu plus spécifiques, comme les ateliers sur l'asthme. C'est pour ça que j'avais cité cet exemple en matière économique. Et puis, dans les deux années qui ont suivi, c'était davantage la construction de véritables programmes de promotion de la santé environnementale et le développement d'outils tout à fait particuliers, de sensibilisation et d'ateliers sur la limitation de certains risques, la pollution de l'environnement intérieur, des ateliers grand public pour la limitation des risques, la lecture des étiquettes alimentaires. Je pourrais citer de nombreux exemples. Et de plus en plus, et ça c'est important à mes yeux, l'implication de nos unions régionales, c'est-à-dire de nos structures décentralisées dans les plans régionaux santé-environnement. Alors, un mot aujourd'hui, simplement pour dire pourquoi, très bref puisqu'André l'a déjà dit, pourquoi traiter aujourd'hui du lien entre environnement chimique, obésité et diabète. On sait très bien que le champ de la santé environnementale est très vaste. Et pour nous, le choix de financer un rapport sur l'évaluation du lien entre environnement chimique, obésité et diabète s'explique tout simplement par ce positionnement qu'on avait pris à Bordeaux en 2009 et ce lien entre environnement et pathologie chronique. André a signalé l'incidence de l'augmentation des ALD. Ce sont des phénomènes trop peu connus qui sont extrêmement importants pour l'avenir et la durabilité de notre système de protection sociale. Je pense que c'est un point sur lequel la conscience de l'opinion publique n'est pas encore suffisante. Et on voit bien qu'aujourd'hui, si les données scientifiques mettent en cause le rôle de certaines substances chimiques, le bisphénol A, André a rappelé également le vote unanime de l'Assemblée qui est important, et ce n'est pas neutre qu'on soit aujourd'hui dans une salle de l'Assemblée nationale pour débattre de cette question, les phtalates. Donc les données scientifiques sont aujourd'hui suffisamment nombreuses pour que l'on ne puisse accepter qu'elles ne soient pas prises en compte à la fois par les pouvoirs publics, les industriels et la population. Ça commence, ce n'est probablement pas encore aujourd'hui suffisant, et c'est comme ça que le mouvement mutualiste a été amené en matière de prévention à développer de plus en plus d'actions de sensibilisation sur les thèmes des risques à l'environnement chimique et aux perturbateurs endocriniens. Et on voit bien que ces actions communes d'un grand nombre d'acteurs peuvent permettre aujourd'hui de placer la France dans une situation un peu exemplaire, ce qui peut être un paradoxe par rapport à des situations qu'on a l'habitude de dénoncer, mais ça montre qu'il est possible d'obtenir des résultats. Alors, pourquoi enfin un partenariat avec le réseau Environnement Santé ? La thématique santé-environnement a été, je viens de le dire, très longtemps négligée par les pouvoirs publics, mais aussi par de nombreux acteurs de l'environnement et aussi par de nombreux acteurs de la santé. Et les explications peuvent être nombreuses à cette situation. On peut penser au manque de formation des professionnels de santé. Ça me paraît être un sujet majeur, pas suffisamment souvent souligné non plus. Peut-être aussi parfois au défaut de pédagogie de certains acteurs de la recherche en toxicologie qui ne s'adaptent pas forcément suffisamment au public pour essayer de mieux populariser, de mieux diffuser leur thèse. Et évidemment, et je crois que c'est un des points principaux, le cloisonnement persistant entre les acteurs de l'environnement et les acteurs de la santé. Et dans ce contexte, le réseau environnement santé constitue pour nous un acteur incontournable, un partenaire incontournable, à la fois, bien sûr, par sa capacité de fédérer de nombreuses associations, mais aussi, bien sûr, par son expertise de fond. Et le partenariat réseau environnement santé mutualité française permet finalement de démontrer la plus-value d'une approche transdisciplinaire, et le programme retenu par le colloque qui nous réunit aujourd'hui en est évidemment une nouvelle illustration. Et si, dans un premier temps, le reste a surtout apporté pour nous son expertise pour concevoir les messages, le contenu des sessions de formation à destination de nos réseaux, dans un second temps, et notamment le travail sur le rapport ECODE a permis, à travers ce cas précis de l'obésité et du diabète, d'objectiver le rôle important de l'environnement dans le développement des maladies chroniques. Alors, les perspectives en conclusion, pour respecter le délai, puisqu'on a dit qu'on arrêtait à 9h30, j'aurais fini avant.
les perspectives pour la mutualité française en matière de santé et d'environnement. J'allais dire, le premier cycle a permis d'imposer, je crois, la légitimité, la crédibilité et l'apport, finalement, de notre mouvement aux côtés des acteurs plus en pointe dans ce combat et notamment dans la promotion de la santé environnementale. Cette reconnaissance, je le dis parce que certains qui ont accompagné ces actions dans le mouvement mutualiste sont présents dans cette salle aujourd'hui, et en grande partie due à l'implication, l'engagement, le volontarisme, le savoir-faire des unions régionales et des mutuelles. Mais cette mobilisation finalement rapide du mouvement mutualiste sur un domaine complexe a bénéficié d'un terreau favorable parce que, assez paradoxalement, beaucoup d'acteurs accorde spontanément à la mutualité française une légitimité sur ces sujets. Donc il est important pour nous de ne pas décevoir ces attentes et de nous impliquer plus encore dans ce domaine. Et au vu du bilan que je considère comme positif de cette première phase de collaboration, nous pouvons maintenant engager un second cycle avec de nouvelles perspectives nombreuses. Je ne vais pas toutes les énoncer, mais évidemment, poursuivre l'intégration transversale de la santé environnementale dans l'offre de prévention, mais aussi dans l'offre de soins mutualistes, c'est important pour renforcer notre logique d'acteur global de la santé. Mobiliser peut-être davantage, je parlais de l'insuffisance de formation des professionnels comme cause des retards qu'on peut observer, eh bien il faut que nous aussi nous mobilisions davantage les professionnels des établissements mutualistes, parce qu'il faut être capable de regarder aussi les insuffisances que l'on peut avoir dans notre propre monde. Essayer de tirer le fil de la santé environnementale pour alimenter l'innovation et la réflexion précisément sur la plus-value des établissements mutualistes, et cette plus-value, elle peut être démontrée par une plus grande implication sur les questions de santé environnementale. Développer, bien sûr, les partenariats sur le plan local, avec des mouvements qui en sont parfois un peu éloignés, quand éloignés de nos préoccupations de santé environnementale. Je pense aux mouvements consuméristes, mais je pense aussi aux acteurs de l'éducation, aux acteurs de l'environnement. Et puis, réaffirmer la légitimité du mouvement mutualiste dans le champ des risques anthropiques émergents, notamment en ce qui concerne les populations vulnérables, femmes enceintes, fœtus, jeunes enfants. André y faisait allusion également. En conclusion, donc, ces pistes nouvelles doivent être explorées en gardant présent à l'esprit, me semble-t-il, le domaine dans lequel la valeur ajoutée de notre action est probablement la plus forte. Cette valeur ajoutée, c'est dans notre rôle d'interface entre la recherche et les actions concrètes de prévention, notamment dans tous les domaines dans lesquels le risque est avéré. Et André nous disait il y a quelques moments, je ne suis pas sûr de citer exactement ce que tu as dit, mais l'esprit est là, qu'il fallait faire attention à ce qu'il n'y ait pas de décalage entre la connaissance scientifique et la mise en œuvre. Et je pense précisément que cet enjeu peut être relevé par des acteurs qui ont des légitimités différentes, et cette collaboration fructueuse, ce partenariat confiant entre le réseau environnement, santé et la mutualité française peut permettre effectivement de raccourcir cet espace tout à fait préjudiciable à la santé de nos concitoyens. En conclusion, deux mots ou une anecdote en dit en 30 secondes. Je disais que si la mutualité avait une forte expertise de terrain à faire valoir, on s'aperçoit que, pour prendre un exemple, au-delà des activités de prévention qu'elle mène partout en France, la mutualité a également beaucoup accompagné d'opérations que je considère comme symboliques. Et il y a quelques jours, je participais à une conférence de presse commune avec l'Académie de médecine, dans les locaux de l'Académie de médecine, dans la grande salle solennelle dans laquelle se réunissent les académiciens, sur les liens entre diabète et précarité. Et c'est tout à fait intéressant parce que le mouvement mutualiste avait activement participé à une étude de terrain qui a été menée dans le Languedoc. Mais je trouve extrêmement symbolique et finalement extrêmement encourageant de voir que dans cette salle solennelle de l'Académie de médecine aient été débattues des questions qui sont des questions qui préoccupent les acteurs de terrain, et non pas seulement la prise en charge médicale du diabète, mais l'ensemble des déterminants environnementaux liés à la précarité, c'est-à-dire une vision large d'une pathologie. Et je vous avoue que c'est la première fois que je vois l'Académie de médecine aussi engagée sur un sujet comme Zolussure. C'est évidemment des parcours individuels. C'est un académicien qui s'est particulièrement impliqué sur cette question, mais c'était intéressant de voir que le président de l'Académie de médecine était présent et d'entendre le président de l'Académie de médecine affirmer la nécessité de prendre en compte l'ensemble des déterminants et l'entendre citer les déterminants environnementaux. Je trouve que c'est quand même des éléments qui peuvent nous donner une petite note d'optimisme avant de commencer nos travaux et nous encourager finalement à les prolonger et à les amplifier encore davantage. Merci.